France Culture.
Réplique. Qui murmure à l'oreille de Trump avec Laure Mandeville et Arnaud Miranda. Donald Trump est un phénomène inédit dans l'histoire. Avec sa casquette « Trump was always right », il pratique sans vergogne le culte de sa personnalité. Face à l'offensive woke, il défend le sens commun et piétine allègrement la décence commune. Il s'inquiète de l'effacement de la civilisation européenne et, dépourvu de surmoi, il incarne la décivilisation. Il a augmenté sa fortune ainsi que celle de ses proches de plusieurs milliards de dollars depuis son retour au pouvoir. C'est du jamais vu. Mais s'il n'a pas de précédent ni d'équivalent, Trump ne peut être réduit à lui-même, à sa voracité, à sa vulgarité, à ses lubies, à son narcissisme, à ses foucades. Il y a autour de ce président extravagant une galaxie d'intellectuels et d'entrepreneurs structuré, argumenté, impassible, qu'il faut connaître pour mesurer ce qui se trame à la Maison-Blanche. J'ai invité à cet effet la journaliste Laure Mandeville, qui a forgé pour Trump le sigle OGNI, objet géopolitique non identifié, et Arnaud Miranda, qui enseigne l'histoire des idées politiques et qui publie Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. Commençons par là. Qu'est-ce que la pensée néo-réactionnaire et qui sont ses promoteurs, Arnaud Miranda?
Alors la pensée néo-réactionnaire, c'est un courant idéologique qui, donc déjà qui se nomme lui-même, hein, néo-réaction, ce n'est pas un terme que j'ai forgé pour le décrire. Ces acteurs aussi utilisent le terme lumière sombre, une autre appellation qu'ils choisissent pour désigner leur courant. Donc c'est un courant idéologique qui naît à la fin des années 2000 sur Internet, dans des posts de blog, dans des échanges entre auteurs de blogs qui écrivent sous pseudonyme avant tout, et qui se constitue une doctrine de manière exclusivement sur Internet. Donc ce courant idéologique se forge autour de deux figures principales, Curtis Yarvin, qui est un ingénieur américain de la Silicon Valley, et ensuite une deuxième figure qui me semble importante, Nick Land, qui est un philosophe britannique, qu'il va lire Curtis Yarvin et lui donner une audience beaucoup plus large. Disons que le fond de leur doctrine, en deux mots, c'est de mettre à bas la démocratie, qui est considérée comme un régime politique inefficace, afin de la remplacer par une forme autoritaire qu'ils appellent monarchique, mais qui en fait est assez nouvelle, ou en tout cas qui se présente comme une monarchie d'un nouveau genre, puisqu'il s'agit de présenter l'État comme une entreprise qui devrait être dirigée par un PDG et renommée PDG monarque, et qui aurait une souveraineté absolue.
Oui, donc ce serait, dites-vous, l'État soft corp. Sovereign Corporation, c'est ça ?
Tout à fait. L'idée, c'est de redécrire en quelque sorte l'État, non pas comme une forme politique qui est fondée sur la légitimité démocratique ou la légitimité populaire, mais de le redécrire comme une entreprise comme une autre, dont la fonction serait d'assurer la souveraineté du territoire et donc la sécurité et la prospérité de la population. Les citoyens seraient donc des clients. Et donc la meilleure forme d'organisation de cet État-entreprise, ce ne serait pas la démocratie, qui donc est trop bureaucratique, trop inefficace et trop instable, mais la monarchie avec un autocrate qui aurait les pleins pouvoirs.
Laure Mandeville, est-ce qu'on y est avec Trump? Est-il déjà le PDG dont rêve notamment Curtis Yarvin? Laure Mandeville.
Non, je ne crois pas qu'on y soit vraiment. Ce qui est vrai, c'est que Trump, dans de nombreux aspects, c'est un chef d'entreprise, en fait, un homme qui vient du business et donc qui applique un certain nombre de d'éléments, en fait, de ces techniques de business à la politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de business réel politique quand on parle de Trump, enfin, certains analystes. Mais pour revenir, en fait, à ce dont parle Arnaud Miranda dans son livre, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, que j'ai lu avec attention, ce qui m'a frappé pour ma part, c'est justement cette espèce de mélange de volonté, effectivement, de dépasser ou de mettre à bas la démocratie, cette volonté d'efficacité, mais aussi le fait que ce ne sont pas du tout des gens, en réalité, qui regardent le passé, comme le feraient des réactionnaires, mais des gens qui regardent le futur. En réalité, ils sont obsédés par le futur, et je pense que ce n'est pas un hasard, ce sont en fait des gens de la Silicon Valley qui pensent, c'est leur manière d'être, au fond ce sont des gens qui ont été recrutés pour être les pionniers de la nouvelle frontière économique américaine, dont on leur a répété, il n'y a pas de frontière, tout est possible, et donc je pense qu'ils, d'une certaine manière, ils traduisent cette idée de tous les possibles dans le domaine politique, c'est-à-dire pourquoi on s'affranchirait pas de toutes les règles, pour justement aller plus loin. Et c'est vrai que dans ce que vous décrivez, qui est assez effrayant, c'est que ils sont prêts, par exemple, à dépasser l'humain, à aller vers une espèce de transhumanisme, de créer des surhommes avec des cyborgs. Des cyborgs qui seraient fusion de la machine et de l'humain. Et je pense que c'est là qu'est le côté proprement vertigineux, en fait, de ce courant.
Alors, justement, oui, j'étais un peu surpris de ce terme de réactionnaire, qu'ils emploient eux-mêmes à leurs propos. Vous n'avez rien inventé, Arnaud Miranda, parce que le réactionnaire, c'est celui, par définition, qui regarde en arrière avec nostalgie, effrayé par la violence, le chaos du monde, etc. Cela, comme l'a dit Normand de Ville, ne regarde que devant eux. Ils sont pris d'une sorte de futurologie, terme que vous employez vous-même, Arnaud Miranda. Nick Lanz a forgé le terme d'accélérationnisme. Il adhère au capitalisme parce qu'il détruit tout. Donc c'est absolument merveilleux. Il se réfère à Gilles Deleuze, à cette déterritorialisation absolue qu'il attend de voir venir. Où est la réaction? Alors on dira que c'est un vieux réactionnaire qui vous parle, mais d'abord je suis pas réactionnaire, mais en plus quand même, je dis où est la réaction, Arnaud Miranda?
Oui, alors ça c'est en effet à mon avis une question essentielle qui paraît peut-être être, disons, abstraite et une histoire de labellisation des courants politiques, mais qui me semble vraiment très importante. Je pense qu'il est important de vraiment de distinguer différentes attitudes quand on est un penseur de droite. Et en particulier, il me semble crucial, et je le fais à la suite de Jean-Yves Prancher, qui est un théoricien politique de l'Université libre de Bruxelles, qui distingue le conservateur du réactionnaire sur une définition minimale qui me paraît très convaincante, c'est celle de dire que le conservateur est animé par une volonté de préservation, de stabilité du régime politique dans lequel il existe, et il s'agit pour lui de préserver un certain nombre de valeurs morales, religieuses, avec cette nostalgie que vous évoquez à mon sens, mais justement parce qu'il est effrayé du changement et de l'aspect transformateur que peuvent entraîner des mouvements politiques, il ne veut pas le changement brutal. Donc il est animé par cette volonté de préservation, dit Jean-Yves Prancher. À la différence du conservateur, le réactionnaire, lui, veut reconstituer. Il veut
un ordre. Il veut un retour.
Absolument,
reconstituer un ordre. C'est du retour, la réaction.
À la différence près que la quasi-totalité des réactionnaires ne s'illusionne pas sur le fait qu'il n'est pas possible de reconstituer tel quel l'ordre du passé. Il s'agit bien de reconstituer un ordre légitime, mais dans un état de fait nouveau. Ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette distinction, c'est que le réactionnaire, et c'est Jean-Yves Prancher une nouvelle fois qui le dit, est animé par une volonté révolutionnaire contre le présent. Donc il s'agit de détruire le régime politique dans lequel il vit, à la différence du conservateur qui est, lui, disons, effrayé de la possibilité du chaos. Donc en ce sens-là, ce sont bien des réactionnaires dans le sens où ils se révoltent, ils veulent détruire la démocratie, quitte à provoquer une forme de chaos momentané. Le deuxième aspect sur lequel ce sont des réactionnaires, c'est que tout d'abord, je fais de l'histoire des idées politiques, ils se placent complètement dans la tradition réactionnaire, en reprenant des auteurs de la tradition réactionnaire, comme Joseph de Maistre, comme Oswald Spengler, comme Carl Schmitt, donc qui sont tout à fait inscrits dans cette tradition, en tout cas au niveau de l'intertextualité des auteurs qu'ils citent. Cependant, si je dis que ce sont bien des réactionnaires, notamment parce qu'ils, dans cette filiation, ils défendent une forme d'inégalitarisme, l'idée qu'il existe des inégalités naturelles qui doivent être répétées dans l'ordre social, une forme de de pessimisme anthropologique sur la condition humaine, une détestation de la démocratie. Si je considère en effet que ce sont des réactionnaires, je tiens au préfixe néo, parce qu'il y a quelque chose de neuf, d'étrange, d'idiosyncrasique dans cette pensée. Et en particulier, je vois deux critères qui permettent de tenir à ce préfixe néo et qui fait que ce ne sont pas simplement des réactionnaires. C'est d'une part un héritage libertarien, qui me semble assez étranger à la tradition réactionnaire et assez typique du contexte américain.
Les libertariens, c'est un mouvement qui est apparu dans les années 60-70 du XXe siècle, c'est ça ?
Qui s'est affirmé, alors qui tire ses racines du XIXe siècle européen, même pas particulier français, de l'école autrichienne, et qui en effet s'est formalisé aux États-Unis dans les années 60-70, et notamment autour de figures comme Robert Nozick, mais surtout de Murray Rothbard, qui est la figure auquel il se réfère.
Liberté individuelle, total et état minimal.
État minimal, voire un état qui disparaît, notamment chez Rothbard.
Oui.
Et le deuxième aspect qui fait qu'on tient à ce préfixe néo et qui répond en partie à votre question, c'est qu'en effet, il y a l'idée d'une précipitation dans le futur par un optimisme technologique. Et voilà. Ça, je tiens à dire que ce n'est pas complètement non plus étranger au sein de la tradition réactionnaire, puisqu'il y a dans les mouvements fascistes des années 20 et chez des auteurs réactionnaires comme Evola, des éléments qui tendent vers le futurisme.
Mais c'est justement, on se demande si ce n'est pas plus fasciste que réactionnaire. Et votre livre, dont la lecture est aussi passionnante qu'éprouvante, se traverse comme un musée des horreurs. Et on voit d'ailleurs poindre ce que j'appellerais, moi, un nietzschisme pour les nuls. Par exemple, l'un de ses auteurs, Alain Marius, nous exhorte à trouver la voie d'une affirmation vitale de notre barbarie, de notre instinct de conquête du territoire. Et ce même Alain Marius considère que l'apparition d'un chef charismatique capable de briser le règne du complexe médiatico-bureaucratique est notre meilleure chance aujourd'hui. Donc c'est le chef, le leader, pour aussi assouvir des pulsions barbares. Ça résonne plus fasciste que réactionnaire, Normand Deville.
Oui, c'est vrai qu'il y a des éléments que vous dites, musée des horreurs, c'est vrai que c'est une espèce de bric-à-brac étrange où se mélangent, d'ailleurs vous le montrez très bien, des éléments aussi de la littérature de science-fiction, de références permanentes justement à l'univers aussi, des jeux vidéo, etc. Donc une culture assez curieuse, hein, parfois presque saugrenue dans les recettes, mais véritablement aussi, c'est vrai, effrayante. Toute la question, me semble-t-il, c'est de savoir où placer ces personnages bizarroïdes qui, pendant très longtemps, comme vous le dites, sont restés en réalité dans une sorte de niche cachée dans Internet, dialoguant avec eux-mêmes ou avec leurs semblables, et donc se sentant comme une sorte d'élite destinée à préparer une contre-culture. Et la question, c'est comment ça s'agrège avec le trumpisme et quel véritable rôle il joue, parce que je crois que c'est au fond la question que vous posez pour votre émission de manière un peu plus globale, quand vous dites qui murmure à l'oreille de Trump, quelle est la portée de ces personnages. Et là, j'ai des questions, mais peut-être un doute. D'abord, je comprends en fait que vous ayez ajouté un chapitre à la fin de votre livre sur les entrepreneurs, donc vous prenez deux personnages qui sont d'une part Peter Thiel et de l'autre Marc Andreessen, donc deux hommes, deux milliardaires de la tech, dont Peter Thiel est beaucoup plus connu puisqu'il a rejoint Trump dès 2016 et l'autre est arrivé beaucoup plus tard. Hein. La jonction se fait en 2024 pour la plupart de ces hommes qui passent du côté du trumpisme, donc à droite, alors qu'ils étaient tous absolument...
L'autre c'est Musk, c'est ça ?
L'autre c'est Andreessen.
Ah, c'est Andreessen, c'est
Andreessen.
Pas Musk.
Et puis il y a toute une cohorte qui va passer en juin-juillet 2024 qui font le grand saut, Musk faisant le saut, en juillet, après l'attentat contre Trump, où il comprend que d'abord, il est époustouflé par son courage, et par ailleurs, il pense qu'il y a un rejet du wokisme extrêmement important. Ce qui me semble, c'est que Peter Thiel n'est pas un néo-réactionnaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Je le vois comme un homme qui a une puissance gigantesque, en fait, qui détient au sein de la société américaine et, je dirais, mondiale, d'un pouvoir gigantesque, et qui est quelqu'un qui est un homme qui estime avoir une pensée, en fait, philosophique, intellectuelle, en tout cas, et qui cherche, je le vois comme quelqu'un qui est une espèce d'esprit qui doute, qui est paniqué par un certain nombre de choses, même s'il se sent puissant, et notamment par le progrès technologique, par l'avenir, de quoi va être porteur l'avenir, et qui essaie, en agrégeant des tas de gens autour de lui, des tas de philosophes, mais pas du tout seulement des gens comme Curtis Yarvin, avec lequel il a, disons-le, un rapport quand même assez lointain, même s'il l'a...
C'est un ami. Hein.
Un ami, oui, mais un ami, je suis pas sûre. C'est-à-dire, je pense qu'il l'a soutenu à un moment, il a peut-être même donné un peu d'argent pour ses affaires. Je sais qu'il fait ça avec énormément d'intellectuels, et il ne se définit absolument pas comme un néo-réactionnaire. Il se définit, je crois encore dans la conférence qu'il a donnée devant l'Académie des sciences morales et politiques, comme un libéral classique. Et donc, je pense que c'est quelqu'un, en réalité, qui n'est pas fixé, qui cherche encore, qui est obsédé par l'idée de l'Armageddon, de l'apocalypse, dont est porteuse le progrès technologique, et obsédé par l'idée de l'antéchrist, qui pour lui serait en fait une réponse qui serait donnée à cet Armageddon, qui serait une société mondiale qui se constituerait pour essayer de maîtriser en fait cette puissance technologique, et lui dit, il faut échapper aux deux, et je veux, moi, aider à chercher un chemin. Et je sais en fait qu'il fréquente non seulement des gens comme Yarvin, mais des gens qui sont des Tocqueviliens, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut se méfier d'une approche trop caricaturale concernant la tech. Et je crois qu'on a un peu trop chevauché vite l'idée que cette alliance entre la tech et Trump était définitive. Vous vous souvenez, il y a eu des tas d'articles sur le césarisme quand Musk a commencé à casser. Je comprends qu'il y a eu une très grosse inquiétude, et cette inquiétude doit continuer. Mais je pense qu'il y a des complexités et des nébuleuses intellectuelles autour de Trump qui sont autres, en réalité, que ces néo-réactionnaires.
Arnaud Miranda.
Je pense que je vais émettre un certain désaccord par rapport à ce que vous venez de dire, puisque... Bon, je pense que Thiel est très nettement un néo-réactionnaire. Je pense qu'il ne faut vraiment pas le croire quand il dit qu'il est un libéral. Il a très clairement cessé d'être un libéral, non seulement en cessant d'être un libertarien au cours des années de 2010, lorsqu'il, enfin, en tout cas, un libertarien dans l'esprit du libertarianisme, puisqu'il dit dans son livre Zero to One en 2014 qu'il ne croit plus au capitalisme de la concurrence. Pour un libéral, c'est quand même un peu embêtant. Il a aussi, dans sa conférence, sa présentation à l'Académie des sciences morales et politiques à laquelle j'ai assisté, vraiment déployé complètement la grammaire néo-réactionnaire et en particulier son aspect accélérationniste. Parce qu'en fait, si l'on se défait du vernis théologique dont il recouvre sa théorie, en fait, ce qu'il est venu présenter, ce qu'il est venu dire, c'est il faut, pour éviter la stagnation dans laquelle est rentré l'Occident, relancer l'innovation technologique en faisant confiance aux entrepreneurs de la tech. Et le corollaire de ça dans ses texte, et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il dit qu'il faut défendre un catéchone. C'est-à-dire, le catéchone, c'est une reprise qu'il fait de Carl Schmitt, qui lit de manière un peu hétérodoxe les concepts chrétiens, et en particulier ce concept de catéchone est issu de Paul.
Et ça veut dire quoi, le catéchone ?
C'est ce qui retient la fin des temps. Et donc, en effet, vous l'avez très bien expliqué, oui. C'est ce qui retient cette espèce de dialectique entre le gouvernement mondial qui serait cette stagnation et la destruction du monde par la technique dans l'Armageddon. Sauf que le catéchone, c'est évidemment pas une démocratie, en tout cas chez Schmitt, et certainement pas non plus chez Thiel, c'est une forme de collusion stratégique entre une entreprise de la tech qui garantit l'innovation technologique et un État qui a une capacité de décision complètement souveraine, ce que la démocratie est incapable de faire. Et il faut aussi, pour comprendre aussi la position de Thiel, se rappeler que son projet idéologique est totalement inséparable de son projet technologique. C'est-à-dire qu'il est aussi complètement investi dans son entreprise qui est Palantir, qui a un projet de véritable de parasitisme de l'État américain. Et ce projet n'est pas essentiellement démocratique ni libéral.
Je ne comprends pas un projet de parasitisme américain.
Qui est en train de développer un certain nombre de contrats qui assurent les fonctions souveraines de l'État, notamment en matière de surveillance, de gestion de données, notamment militaire, mais aussi de la population.
C'est l'intelligence artificielle, c'est
ça ? En partie, oui, de l'intelligence artificielle. C'est une entreprise de gestion de données, non seulement à l'échelle américaine, mais aussi en Europe et en France en particulier. Et ce projet n'est pas essentiellement démocratique ni libéral. C'est un capitalisme de la prédation que cela incarne.
Alors, quand vous décrivez finalement cette idée qu'il veut utiliser l'État pour servir ses intérêts, etc., là, on est dans le cas de figure, effectivement, de quelque chose de profondément nouveau et qui me préoccupe personnellement énormément. C'est effectivement la place et le rôle de la tech dans l'organisation politique et ce que cette accélération du progrès technologique, ce que le futur nous réserve. Et je crois qu'en réalité, ce que montre Thiel, et c'est, je ne sais pas si ce sont des errances ou sa recherche en fait de la bonne voie ou d'une voie possible, c'est justement, je pense qu'il y a une conscience chez lui du pouvoir qu'ils ont et du fait qu'on est dans l'accouchement de quelque chose dont personne ne voit les contours. Je ne suis pas certaine, et c'est là peut-être ce qui nous sépare, mais honnêtement, je dirais que je suis dans une incertitude assez grande de ce qu'il y a à l'intérieur de son cerveau. Personnellement, j'ai passé un déjeuner en tête-à-tête avec lui de 2h30 avec Peter Thiel il y a 2 ans. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui évolue aussi en permanence. Donc, quand vous le citez en 2014, je ne suis pas sûre que ce qu'il disait en 2014, c'est exactement ce que Peter Thiel 2026 pense. Je pense qu'il cherche, qu'il va, qu'il vient. Et je me souviens en tout cas qu'il y a 2 ans et demi, il ne m'était pas du tout apparu. Alors peut-être c'est parce que je suis d'une grande ignorance et d'une grande naïveté, mais comme, si vous voulez, une sorte de force maléfique, néo-réactionnaire, qui voulait en fait supprimer la démocratie.
Alors justement, supprimer la démocratie, ça reste un thème très important de cette pensée qui se dit néo-réactionnaire sans me convaincre, à cause justement de cette irrésistible pulsion phénoménologique qui est la sienne. Mais il y a un concept chez Yarvin, je ne sais pas si Peter Thiel le reprend, un concept qui trouve des échos dans le trumpisme, c'est la cathédrale. Il faut démanteler la cathédrale, et la cathédrale est composée de 2 parties, les universités accréditées et la presse classique. Et Trump s'en prend aux unes et aux autres. Les universités, à cause du poids, d'ailleurs réel, du wokisme, de la cancel culture, etc. Et la presse classique, Trump lui intente à cette presse des procès tous azimuts. Il veut même presque la mort de la BBC en lui réclamant, je ne sais pas combien de milliards de dollars, mais il compte en milliards, Trump. Mais justement, alors, c'est quoi exactement la cathédrale? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce concept? Arnaud Miranda, puis Laure Mandeville.
Alors, ce concept de cathédrale, il est en effet forgé par Yarvin pour décrire ce qui constitue pour lui le principal obstacle à un renversement de la démocratie. Donc, son plan de bataille, c'est de renverser la démocratie pour mettre en place un État entreprise. Et il dit finalement, dans ce mouvement de transition, le principal obstacle va être cette idéologie dominante produite par les universités, relayée par les médias, qui tiennent l'opinion publique, et dans un cadre démocratique, l'opinion publique fait pression sur les dirigeants. Et donc les dirigeants démocratiques ne peuvent pas prendre de décisions que Yarvin considère comme étant rationnelles, proprement efficaces, justement parce qu'ils sont tenus par ce complexe académico-médiatique, hein, que Yarvin, en fait, c'est une sorte de miroir du complexe militaro-industriel, hein, mais sur le plan moral et idéologique. Et l'idée de Yarvin, c'est que cette cathédrale, donc ce complexe académico-médiatique, produit dans les universités une idéologie qui est universaliste sur le plan moral, qui prône la justice sociale, l'égalité, que les médias relaient cette idéologie qui est comparée à une forme de religion sans Dieu ou de nouvelle religion ou de secte dérivée du protestantisme, dit Yarvin, parce que ce serait une forme de puritanisme moral. Voilà, l'idée c'est de dire que cette idéologie tient l'appareil d'État et par l'intermédiaire de sa formation de l'opinion publique. Et donc c'est un des principaux obstacles, le principal obstacle au renversement de la démocratie. Le deuxième aspect de vos questions, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Je ne sais pas s'il faut prendre le concept de cathédrale au sérieux, parce qu'en fait c'est une manière, ça c'est typique de la manière du style de Yarvin que je décris comme pamphlétaire, c'est-à-dire une manière de redécrire systématiquement la réalité politique pour imposer son vocabulaire. Donc je ne sais pas s'il faut reprendre ce terme, mais en tout cas c'est très significatif sur la manière dont l'administration de Trump a abordé le second mandat, notamment par rapport aux difficultés qu'il a eues de véritablement prendre le pouvoir en 2017. Là, il fallait arriver préparé, et donc il est arrivé en ciblant ce qui est considéré comme étant le principal blocage dans la prise du pouvoir, et c'est précisément ce que Yarvin décrit comme la cathédrale.
Donc ça voudrait dire que Yarvin murmure à l'oreille de Trump?
Non, je dirais pas ça, dans la mesure où je me défends complètement de l'idée que Yarvin serait le spin doctor de Trump. Pour être plus précis, je pense qu'on peut dire qu'il a des relais importants au sein de la Maison Blanche. Il a été très proche au sein de ce qu'on a appelé le Thielverse, c'est-à-dire l'univers autour de Thiel. D'ailleurs, il était surnommé à cette époque, pour répondre à ce que disait Laure Mandeville tout à l'heure, il était surnommé le philosophe officiel du Thielverse. Donc, ce qui donne un peu sa caractéristique caractère central de cette galaxie, donc qui était dans la deuxième moitié des années 2010, rassemblait des entrepreneurs de droite de la Silicon Valley, des investisseurs et surtout des acteurs politiques qui étaient prometteurs, et en particulier deux, J.D. Vance et Michael Anton, qui ont été des figures centrales de la deuxième, enfin qui sont des figures centrales de la deuxième administration. J.D. Vance est vice-président aujourd'hui. Il a cité explicitement Yarvin dans un podcast, et même plusieurs fois, mais dans un podcast très écouté en 2021. Ça, c'est pas du tout anecdotique. Un vice-président qui a cité un intellectuel blogueur obscur, je pense pas qu'il faille en faire une anecdote. Et Michael Anton, qui a été directeur de la planification politique jusqu'à septembre, a eu un rôle visiblement très important dans l'écriture du document de la NSS, de la stratégie de sécurité nationale, qui définit la grammaire de la politique étrangère américaine et particulièrement la manière dont sont justifiées les actions de politique étrangère auxquelles on a eu affaire en ce début d'année.
Ah ben on va en parler, mais justement, Laure Mandeville, oublions le mot de cathédrale, il y a en effet une critique en règle de la démocratie qui trouve un écho chez Trump. J'ai sous les yeux une tribune parue récemment dans Libération, signée par Romuald Sciorra, essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Et voici ce qu'il écrit. Autour du président, des figures comme J.D. Vance ou Susie Wiles, secrétaire générale de la Maison-Blanche, qualifiée par Trump lui-même de femme la plus puissante du monde, applique un projet idéologique structuré, mettre à bas la démocratie libérale américaine afin d'instaurer un régime autoritaire et de mener une contre-révolution culturelle qu'il qualifie d'ultra-conservatrice, on peut dire aussi néo-réactionnaire. Qu'en pensez-vous ? Oui, que alors, pensez-vous de cette menace ?
Déjà, je suis surprise de voir citer à égalité, dans le même sac, le nom de J.D. Vance et de Susie Wiles, qui sont des personnages qui ont des rôles absolument différents. Susie Wiles étant la chef de l'administration de Trump, qui a un rôle, je dirais, essentiellement organisationnel et logistique, je dirais presque. Et elle a aussi une influence, dit-on, d'apaisement ou de pour tempérer le caractère du chef, parce qu'il paraît qu'elle a tempéré pendant très longtemps son propre père, qui était un personnage connu d'ailleurs en Floride, extrêmement fougueux, voire explosif, et que donc elle avait appliqué la même méthode avec Donald Trump pendant sa campagne et a été prise finalement dans l'administration. Pour revenir en fait au sujet, je dirais que ce qui rapproche au fond les gens de la néo-réaction que décrit Arnaud Miranda, des autres Trumpistes, ce qui les a réunis, je dirais, en 2024, pourquoi cette jonction s'est faite, c'est justement dans le désir de cette bataille contre à la fois cette idéologie qui est appelée cathédrale, en fait cette espèce de complexe idéologique du progressisme, donc vraiment au centre duquel c'est on veut se débarrasser en fait du wokisme, cette idéologie qui a gagné les universités, qui a la primauté à l'intérieur des grands médias, ou à tel point que maintenant on écrit Black avec un grand B, White dans le New York Times et White avec un petit W, le fait qu'il y ait il doit y avoir des séances d'auto-critique au sein des universités et on doit énoncer ses privilèges au début de chaque cours, etc. Je crois qu'il y a eu une espèce de montée d'exaspération qui a traversé tout le spectre politique, en tout cas de la droite et d'une partie des classes populaires, contre en fait cette idéologie. Et je crois que c'est l'axe, en partie l'axe qui fait cette jonction. Et je me souviens que quand j'avais fait une série aux États-Unis en 2024, il y avait eu un très intéressant article de Rose Doutat, plusieurs d'ailleurs, de cet éditorialiste conservateur, qui avait expliqué que une partie de la Silicon Valley, précisément parce que ce sont des gens qui sont une espèce d'élite qui fonctionne à la méritocratie au sens le plus pur du terme, les meilleurs doivent gagner, il faut qu'on aille toujours plus loin, qu'on soit plus compétitif, etc. Il s'était retrouvé en opposition avec le wokisme qui, à l'intérieur des structures de la Silicon Valley, leur semblait, en réalité, détruire les bases de la méritocratie. Ils voulaient aller contre. Ils trouvaient aussi que cette idée était mortifère de l'idée que de la culpabilité, qu'il fallait en permanence que l'Occident et l'Amérique battent sa coupe, etc. Et donc, ils ont rejoint, ils ont vu en Trump un espèce de véhicule comme d'autres partis. Les nationaux conservateurs, c'est pas du tout exactement la même chose. Il y a des points de convergence, mais c'est pas la même chose. Les nationaux conservateurs, les nationaux populistes, c'est-à-dire plutôt cette base des rednecks qui se sont rebellés, etc., ils ont tous fait corps derrière ce véhicule intempestif que vous avez bien décrit, Alain, au début, complètement hors normes, débridé, décomplexé, sans surmoi, et en se disant, on va se débarrasser de cette, à la fois de l'État profond et de la cathédrale. Le problème, c'est que ce mouvement de pendule, au lieu d'aller vers une sorte de revenir à un centre de ce que Trump appelait le bon sens pendant sa campagne, est parti très très loin vers l'autre côté, et on voit émerger cette pulsion destructrice qu'on retrouve dans les écrits de vos penseurs. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui est effrayant, c'est-à-dire un inconnu malgré tout, c'est-à-dire cette volonté d'extirper le mal va très loin. C'est-à-dire, il y a Barry Weiss qui dit, je crois récemment, elle dit dans un article, on voulait tout interdire et maintenant ils ont avec le mouvement de pendule, ceux qui sont maintenant aux affaires veulent dire que tout est permis, on peut tout dire, on peut dire les pires choses antisémites, on peut aller très très loin. Et donc c'est ça, je crois, le moment dans lequel on est, c'est ce mouvement de pendule qui se dérègle et qui est porteur d'une grande incertitude.
À propos d'antisémitisme, il faut citer Nick Fuentes, qui fait partie de la galaxie MAGA. Je ne sais pas s'il se définirait comme néo-réactionnaire. En tout cas, il a été interviewé par un journaliste très célèbre dans la galaxie Trump, Tucker Carlson. Or, il confesse sans embâge son admiration pour Hitler, et pour ce qui est de Trump, je voudrais citer quelques exemples de son « tout est permis » à lui. Les Somaliens sont des gens avec un faible QI. Les Danois ne se sont battus que 6 heures contre les Allemands. Je vais arrêter l'immigration venue du tiers-monde, y compris des pays trouara comme l'Afghanistan, Haïti, la Somalie et beaucoup d'autres. Pourquoi ne prend-on des gens que des pays de merde? Alors d'abord, oui, avant d'en venir à certains aspects de cette politique, je m'arrête à votre titre, Arnaud Miranda. Lumière sombre, cet oxymore, vous ne l'avez pas inventé. Alors, qu'est-ce que on entend par là du côté des néo-réactionnaires? Lumière sombre, Arnaud Miranda.
Alors, en effet, je ne l'ai pas inventé, c'est Nick Land qui forge cette expression pour décrire la pensée de Curtis Yarvin. En 2012, il écrit une série d'articles, donc il l'intitule « Dark Enlightenment », donc c'est lumière, pas au sens vraiment de lumière, comme le mouvement du XVIIIe siècle français. Je pense que c'est important de le prendre au sérieux, puisque c'est d'abord un philosophe de formation qui donc utilise ce terme de « enlightenment » en conscience, de manière choisie. Je pense que ce qu'il faut voir, c'est que Dark Enlightenment, du fait de cette référence à la contre-culture numérique et à la culture populaire, c'est une référence explicite à Star Wars et à l'idée du côté obscur de la Force. Donc, dans Star Wars, il y a une opposition entre les Jedi, qui sont ces acteurs moraux, et l'Empire, qui est la force obscure qui est obsédée par le pouvoir et la domination. Et donc, il nous propose de prendre un autre chemin que celui des Lumières qui, elles, sont dominées par cet espoir et cette obsession morale, celui des Lumières qui seraient les autres Lumières. Et en ce sens, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. L'idée, ce n'est pas de revenir avant les Lumières, c'est de choisir une autre modernité qui serait une modernité débarrassée de la question morale. C'est une modernité qui ne garde de la modernité que le capitalisme et l'innovation technologique. Et donc, les Lumières sombres, c'est quoi? C'est une modernité qui, donc, accepte l'innovation technologique, le capitalisme, cette forme de progrès au sens très large, hein, pas au sens de progrès moral, mais qui, parce qu'elle est du côté obscur de la force, veut le voir comme une simple force brute qui n'est encadrée par rien.
Alors, débarrassé de la question morale, mais aussi, pourrait-on dire, de la question politique. Il paraît que Peter Thiel, dites-vous, a des références tocquevilliennes, Lord Mandeville, mais je voudrais citer ici Tocqueville, qui avait un grand amour de la liberté politique, à des différences d'autres libéraux d'ailleurs, comme Benjamin Constant. Les sentiments et les idées ne se renouvellent, le cœur ne s'agrandit et l'esprit humain ne se développe que par l'action réciproque des hommes les uns sur les autres. C'est ça la démocratie, c'est ça le citoyen. Les citoyens sur la scène publique, ils parlent ensemble. Alors, avec les nouvelles technologies, maintenant, curieusement, il se lâche, il ne se parle pas, il s'insulte. Mais c'est... Tocqueville, heureusement pour lui, ne connaissait pas l'Internet ni le téléphone portable. Et puis, la démocratie, pour le dire avec les mots d'Hannah Arendt, c'est l'amour du monde. C'est l'amour du monde, avec bon, le souci du monde. Alors, ce souci s'exprime de manière différente, mais on a l'impression que pour cette galaxie néo-réactionnaire, le monde lui-même n'importe pas. Ce qui importe, c'est une sorte de processus technologique qu'il faut accompagner, qu'il faut accélérer, etc. Donc, ce refus de la citoyenneté et de la démocratie a quand même de quoi faire frémir Laure Mandeville.
Complètement. Je pense que c'est effectivement, vous touchez du doigt l'élément le plus important, c'est-à-dire à la fois ce que disait Arnaud Miranda sur la question morale, qui me paraît effectivement aujourd'hui évacuée à plein d'égards, dans la manière dont est défendu par cette administration justement le retour de la puissance, de la force, l'évacuation de cette question morale, et comme vous le dites aussi, la question de l'autre, en fait, du débat, de la conversation contradictoire. C'est vrai que et la question, je crois, des limites. C'est-à-dire que, il me semble que, au fond, nous tournons autour de cette question, en fait, de la limite, ce monde de la tech qui ne voit pas de limite, Trump qui ne voit pas de limite dans ce qu'il dit sur le plan rhétorique, etc., etc. Et je crois que, malgré tout, pour l'instant, je voudrais juste dire ça, parce nous peignons un tableau catastrophiste, et c'est vrai, c'est que, pour l'instant, Trump n'a pas encore passé les limites de manière irréparable. C'est-à-dire on voit encore quand même un cadre démocratique, et il y a encore les juges, ils sont là. Et donc, nous verrons dans les prochains mois, par exemple à l'occasion de ces midterms, si Trump va, par exemple, essayer de prendre le contrôle du processus électoral. Il dit qu'il veut recentraliser le contrôle des élections, c'est une affirmation très grave, et on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, le système, malgré tout, est là, et d'une certaine manière, résiste. Donc je crois que c'est... On est dans un moment clé avec ce tâtonnement, cette sorte d'errance, disons, de l'Amérique avec elle-même.
On peut se demander aussi, également, si Trump est seulement un prédateur, le barbare dont rêvent certains néo-réactionnaires décrits dans votre livre terrible, Arnaud Miranda. Parce que quand même, il a mené des actions qui peuvent se justifier moralement. La première, c'est la capture de Maduro. Ses finalités, c'est peut-être pétrolière, économique, d'accord. Mais les exilés vénézuéliens pleuraient de joie et les prisons commencent trop lentement à se vider. Et rappelons-le, Maduro était un tyran corrompu, effroyable. Deuxième chose, le cessez-le-feu à Gaza. Cessez-le-feu à Gaza, alors autour duquel il construit maintenant un conseil de la paix, dont nous parlerons peut-être, un peu ridicule, c'est vrai, avec son ticket d'entrée à $1 milliard, et Trump qui aurait seul le droit de veto, en concurrence avec l'ONU, il n'empêche que le cessez-le-feu tient à peu près, malgré le refus absolu du Hamas de désarmer. Et puis, la question iranienne, on est tous suspendus. Peut-être ce week-end, peut-être plus tard, peut-être dans 10 jours, y aura-t-il une intervention américaine souhaitée par une grande majorité du peuple iranien pour renverser le régime d'Ebola. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ni MAGA, ni l'Amérique America Great Again, très isolationniste, ni avec ce que disent les néo-réactionnaires. Alors que penser de ces initiatives de Trump? Quelle place ont-elles dans le cadre que nous avons fixé, Arnaud Miranda?
Je pense que c'est une question, en effet, essentielle, et vous dites que ça n'a rien à voir avec la sphère MAGA, tout à fait. La sphère MAGA, et en particulier le national-populisme de Trump, notamment dans sa première élection en 2016, était centré sur la question isolationniste. En revanche, ça a tout à voir avec les néo-réactionnaires, qui sont précisément, qui défendent une politique, et en particulier Curtis Yarvin, une politique impériale. Au moment, à la fin des années 2000, en 2008, je crois, quand la plupart de la droite radicale américaine se détestait le néoconservatisme à la fois pour sa défense de la démocratie, mais aussi pour ses échecs, ce qui était considéré comme des échecs au niveau des interventions en Irak en particulier, mais aussi en Afghanistan, Yarvin disait « nous ne sommes pas allés assez loin ». C'est ça qui a été le véritable échec. Nous ne sommes pas allés assez loin dans la violence avec laquelle nous sommes intervenus.
Oui, mais le même Yarvin, vous le dites dans votre livre, Arnaud Miranda, pense que Trump devrait donner carte blanche à la Russie sur toute l'Europe en retirant son influence. L'Amérique précipiterait la mort du libéralisme sur le vieux continent, ce qui d'ailleurs était reflété dans le célèbre discours de G.D. Vance à Munich en janvier 2025, quand il disait aux Européens que la menace russe était secondaire par rapport au danger que représente l'idéologie progressiste qui dominerait l'espace européen. Donc, livrer l'Ukraine à la Russie, ça ne dérange pas du tout Yarvin. Donc c'est pas tout à fait le sens de l'intervention éventuelle de l'armée américaine en Iran.
Tout à fait. Vous avez, dans votre question tout à l'heure, vous avez utilisé une formule qui me semble parfaitement mettre le doigt sur la question. Vous disiez, ce sont des actions qui pourraient être justifiées moralement. En fait, c'est là qu'il y a eu un véritable changement, notamment dans les interventions néoconservatrices, enfin justifiées de manière néoconservatrice dans les années 2000, et ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Il y a eu une rupture au niveau de la grammaire idéologique, de la manière dont on justifie ces actions, dont l'administration justifie ces actions. Nous sommes passés d'une justification morale, voire parfois théologique, avec l'axe du mal, l'idée que ces interventions, même si évidemment il ne faut pas se leurrer sur les intérêts matériels qui sont derrière, sont justifiés comme des actions morales au nom de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme et de l'Occident, plus généralement des valeurs de l'Occident. Aujourd'hui, le Venezuela, l'intervention ne s'est pas présentée de cette manière. C'est une intervention qui s'est présentée elle-même comme prédatrice. Les positions par rapport au Groenland d'eux-mêmes, la création du Board of Peace d'eux-mêmes, avec ce discours de Trump qui a été complètement, qui était presque délirant, d'inauguration de ce bureau de la paix, dans lequel il disait qu'il réglait des guerres de manière complètement mercantiliste. Et en fait, cette grammaire impériale de la puissance, elle est typiquement mercantiliste, c'est-à-dire un usage de la force et de l'économie comme levier politique. Et ça n'a absolument rien à voir avec les positions néoconservatrices. Peut-être que les interventions peuvent être les mêmes, de fait, mais ce qui a vraiment changé, c'est la grammaire idéologique de justification de ces interventions. Et pour moi, ici, on est beaucoup plus en phase avec, alors pas uniquement, mais en partie avec les idéologues néo-réactionnaires.
Laure Mandeville.
Oui, en fait, dans le comportement aujourd'hui de Trump, c'est évident qu'on n'est pas du tout dans l'isolationnisme. Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que Trump n'était pas un isolationniste, même en 2016, et que son but, c'est une intervention au bénéfice de l'Amérique. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est aussi à son propre bénéfice. Donc il y a beaucoup d'éléments. Vous avez raison d'insister sur cet aspect ce retour de l'empire, ce retour de la d'une espèce de logique impériale, d'une logique aussi mercantile. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer aussi l'aspect homme d'action. C'est-à-dire que je crois que chez Trump, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est encore défendu par énormément de gens aux États-Unis, quand il justifie la persistance de leur soutien, c'est regarder, lui, il agit. Il a agi sur la frontière, il a arrêté l'immigration dont on nous disait qu'elle n'était pas arrêtable. Il agit contre le trafic de drogue dans la mer des Caraïbes. Voilà ce que disent les gens. Et donc, je crois qu'il y a un aspect action. Et dans l'histoire de l'Iran, c'est pareil. Il a voulu affaiblir les proxys, il a voulu régler l'affaire de Gaza. Il cherche des solutions. Alors évidemment, il le fait d'une manière brutale, souvent cynique, etc. Parfois superficielle. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire quand il dit « j'ai réglé tant de guerres », il y a un aspect narcissique qui est presque comique. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un côté chez lui qu'on peut pas lui enlever, pragmatique. Regardez l'histoire de l'ONU, il dit « l'ONU marche pas, elle est presque bonne à jeter à la poubelle, elle est totalement idéologique, etc. Créons une autre ONU ». Alors c'est vrai que comme c'est, si vous voulez, c'est enrobé dans cette espèce de narcissisme assez grotesque qu'on a vu se déployer lors de l'inauguration, ça permet à ses adversaires de dire « mais regardez, c'est grotesque, on ne peut pas participer », n'empêche qu'il y a un certain nombre de résultats possibles. Alors, Là où je suis d'accord avec vous, on est dans une incertitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'au fond, même des personnages comme lui ne sont pas complètement blancs et noirs. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce qui est curieux, c'est que derrière le mercantilisme, l'impérialisme, etc., vous voyez poindre cette espèce d'esprit wilsonien où nous sommes the good guys, on est du bon côté et donc on va sauver peut-être les Iraniens. Je crois que c'est quand même, même si c'est pas la première pensée de Trump, ça en fait partie. C'est-à-dire que les Américains, au fond, continuent même avec Trump, de se penser d'une certaine manière comme les bons shérifs, ceux qui font la paix, ceux qui amènent une forme d'ordre, etc. Même s'ils sont beaucoup plus cyniques, même si en Europe, ils veulent effectivement soutenir leurs alliés idéologiques contre l'intérêt de l'UE, par exemple, qu'ils veulent détruire, etc. C'est très complexe, au fond, et je pense qu'il y a on n'est pas au bout de nos surprises, et c'est pour ça que je parlais d'OGNI, c'est que je pense qu'au bout du compte, bien malin celui qui pourra dire où on en sera à la fin du mandat de Trump, quel sera le résultat finalement de cette stupéfiante présidence.
Alors, il est vrai aussi qu'on a le sentiment, de manière générale, que les responsables politiques sont de plus en plus réduits à l'impuissance, contraints d'accompagner les processus, aussi bien économiques que démographiques. Donc, il y a quelque chose de fascinant à voir un responsable politique, et pas n'importe lequel, puisqu'il est la tête de la plus grande puissance du monde, eh bien, justement, agir, faire preuve, en effet, de puissance. Et autre chose, il est vrai que ces arguments ne sont jamais, ou presque jamais, moraux, mais mercantilistes. Mais en face, les arguments moraux sont assez terrifiants. Je pense, par exemple, aux réactions à la capture de Maduro. On a dit que c'est une violation du droit international. Et c'est pas seulement Mélenchon qui l'a dit. Les gens n'ont pas de mémoire. La Société des Nations, Genève, il y a un juif de Silésie qui est invité à parler du traitement réservé à sa communauté par le régime nazi. Et Goebbels assiste à cette conférence et il répond « Charbonnier est maître chez soi ». Charbonnier et tout ça. Et tout d'un coup, on invoque le droit international pour dire, après Goebbels, Charbonnier maître chez soi. Donc on est obligé de penser que la morale n'est pas là où elle prétend être. Mais est-ce que vous avez, vous aussi, Arnaud Miranda, l'espoir que Trump va, peut-être malgré lui, dans les années à venir ou dans les semaines à venir, agir dans le bon sens ?
En fait, ce n'est pas parce que je le décris comme étant dans une logique impériale et mercantiliste qu'il ne peut pas avoir une action positive à certains égards. C'est-à-dire simplement, je dis que précisément la rhétorique invoquée suggère que l'objectif n'est pas la question morale, n'est pas une sorte de mission civilisatrice ou bienfaitrice. Et d'ailleurs, la question de l'Europe le montre très bien. Vous l'avez mentionné, l'idée de se retirer d'Europe, de ne pas entrer de manière conflictuelle dans le conflit avec la Russie, ça va précisément dans le sens que c'est à géométrie variable, justement parce que cette grammaire suit avant tout l'intérêt économique et politique américain. Sur la question de la personnalité et du fait que c'est un homme d'action, je pense qu'il ne faut pas distinguer, il ne faudrait pas imaginer qu'il y ait d'un côté une sorte d'approche individualiste qui consisterait à dire c'est un homme qui agit et donc on ne peut pas le réduire à l'idéologie. Je pense qu'en fait l'idéologie c'est précisément ce qui articule les idées, la production intellectuelle, la rhétorique, la grammaire qui est produite par les idéologues et le comportement politique des acteurs. L'idéologie, c'est un bloc, c'est ce qui lie tous ces éléments. Donc, quand Trump agit et se présente comme un dirigeant efficace, il participe de cette idéologie de l'efficacité. Et ce que préconisent les néo-réactionnaires, c'est précisément ce qu'est en train de faire Trump, c'est-à-dire réduire la voilure de la souveraineté pour qu'un homme capable soit en mesure de faire des décisions efficaces et règle des situations avec le bon sens. C'est précisément ce que dit Yarvin. Yarvin dit, pourquoi est-ce qu'il nous faut un dirigeant PDG ? Pour qu'en fait, il soit seul à décider, et que, de la même manière que ce que Trump a présenté lui-même comme la manière dont il avait réglé le conflit entre l'Inde et le Pakistan, il promette une punition s'il ne règle pas la situation, et que, justement, parce qu'il n'a aucune contrainte pour proposer ce genre de chantage, arrive à trouver une solution.
Oui, mais c'est vieux comme le monde, parce que honnêtement, l'impuissance accouche en fait du rêve et du fantasme de l'homme fort qui va tout régler. Et là-dedans, on n'a rien de moins que cela, c'est-à-dire que l'impuissance des démocraties pendant des années génère aujourd'hui, et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, l'espoir justement d'un homme qui va justement passer par-dessus les institutions pour régler un certain nombre de problèmes qui sont vus comme insupportables. Il y avait juste une chose que je voulais dire, c'est que il me semble que les États-Unis aujourd'hui, c'est un acteur qui est dans une période de crise absolument profonde et que ça rejaillit en fait sur le reste du monde parce que les États-Unis étaient vus comme une sorte de père, un père qu'on pouvait détester, qu'on pouvait rejeter, mais qui quand même était un référent, qui effectivement venait de temps en temps remettre de l'ordre. Et donc c'est ça d'ailleurs qu'on attend encore malgré tout en Iran, malgré la personnalité de Trump. Et on se demande aujourd'hui si ce père est encore viable, ou s'il est gâteux, ou s'il a perdu la tête. Et c'est ça, je crois, le désarroi dans lequel nous sommes tous en regardant les États-Unis.
Alors nous terminerons, merci, sur ces notes de désarroi. Je rappelle le titre de votre livre, Arnaud Miranda, Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. Il est publié aux éditions Gallimard dans la toute nouvelle collection Bibliothèque de géopolitique. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Emmanuel Macron, quel bilan? Mes invités seront Arthur Chevalier et Franz-Olivier Gisbert. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Roxane Nata, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Bruno Mourlan.